Bonjour les collègues, vous écoutez La Gueule Ouverte, l'émission mensuelle d'Attaque Marseille, les deuxièmes jeudis de chaque mois de 15h à 15h30 sur Radio Galère. La Gueule Ouverte, une émission qui fait monter la yoli, qui boulègue les consciences et qui dit stop aux connos.
Eh bien bonjour, salut Christine, bonjour à tous.
Salut Guillaume.
On est là pour une nouvelle édition, une nouvelle émission de La Gueule Ouverte.
C'est la 80e.
Alors j'espère que je tiendrai dans le temps aussi longtemps, 80 c'est beau. Une nouvelle émission avec une nouvelle équipe, Christine qui est avec moi depuis la première.
Depuis la première, non.
Non, ah non
moi je suis en bouche-trou, moi.
Ah bon, d'accord. Et puis une nouvelle équipe aussi avec Nicolas et André qu'on entendra tout à l'heure qui vont nous parler de l'extension, du projet d'extension de l'aéroport de Marseille-Marignane. Et Christine, donc, qui nous parlera de décisions en matière de changement climatique. Et moi-même, Guillaume, qui m'essaye à l'exercice de la radio pour la première fois et qui est bien content de ça.
Et tu vas nous parler tout à l'heure d'Alteo, particulièrement.
On va discuter tous les deux un petit peu de ce qui se passe là-bas. Il y a un peu de changement, ça bouge. On va vous en dire deux mots.
D'abord, quelques mots sur nos actions des 3 et 4 décembre dernier contre Amazon, cette multinationale qui fait partie des GAFA et que Attaque dénonce depuis plusieurs années déjà. Là, nous étions en collaboration et au niveau national avec ANV COP 21, les Amis de la Terre, l'Association nationale des commerçants et Attaque France, donc. Et localement, nous avons mené cette action en direction des commerçants. C'était une action qui visait à leur proposer un large choix d'affiches dénonçant les méfaits d'Amazon et de son monde. Pêle-mêle, la dénonciation de l'évasion fiscale pratiquée par cette multinationale, les conséquences sur l'emploi d'un usage excessif d'Amazon, la robotisation à l'extrême, la pollution engendrée par les trajets immenses faits par les objets que vend Amazon, puisque elle va chercher les objets là où la main-d'œuvre est la moins chère pour les vendre partout sur la planète, en se souciant fort peu de la pollution que ça induit. Le climat encore avec l'artificialisation des sols, surtout qu'il y a une bataille qui est menée en ce moment.
Notamment un immense entrepôt dans l'est, un projet pharaonique d'entrepôt contre lequel la population se mobilise aussi là-bas.
Convention citoyenne pour le climat, ces citoyens qui ont finalement été assez efficaces dans leur travail. De propositions et ils ont demandé un moratoire contre l'artificialisation des sols pour les zones commerciales et Macron ne veut pas y intégrer.
Ce que s'emploie à détricoter Macron pour que ne pas tenir compte des avis qui sont un petit peu contre sa politique globale.
Voilà, on souhaite que les entrepôts d'Amazon soient intégrés dans ce moratoire.
Bien sûr.
Et pour l'instant, ce n'est pas le cas et c'est un des enjeux du débat actuel d'interdire tous ces nouveaux entrepôts qui vont permettre ça. En tout cas, bon, pour les commerçants, les petits commerçants, surtout les petits, voilà, ça peut être une lutte commune comme un ensemble. Les libraires, bien sûr, mais pas que. Les vêtements, jouets, enfin, tout ce que les gens achètent.
Bien sûr.
Et la démarche, elle est aussi en direction des consommateurs, consommateurs, parce que s'il n'y en avait pas pour commander sur Amazon, ça irait mieux, quoi.
Comme disait Coluche, quand on pense qu'il suffit d'arrêter d'acheter pour que ça arrête de se vendre.
Je ne savais pas qu'il avait dit ça, c'est pas mal. Donc, les gens font des choix et c'est aussi pour faire prendre conscience de ces choix-là. Vous choisissez d'aller commander sur Amazon, ça signifie qu'à terme, vous n'aurez rien d'autre, plus rien d'autre. Donc, les librairies, vous trouvez précisément ce que vous ne pouvez pas trouver sur Amazon, les petits commerces, la vie sociale, la vie locale, tout ce que ça signifie. On est en train de nous préparer un monde où ça va disparaître. Alors, les grandes surfaces, il y en aura toujours. Mais est-ce qu'on veut ce monde-là, quoi ? Voilà. Donc, c'est important, parfois, de s'associer avec des gens avec lesquels on n'a pas l'habitude de s'associer.
Revenir. L'oignon fait la soupe et l'union fait la force.
Voilà.
Super.
Et puis il y a une autre mobilisation qu'on suit en ce moment à TAC Marseille, c'est celle contre le projet de loi sécurité globale qui constitue quand même plutôt une atteinte à la démocratie.
Ouais, qui met gravement la démocratie en danger. D'ailleurs, il y a plusieurs pays européens qui ont manifesté leur inquiétude à l'égard du gouvernement français sur les décisions qu'ils prennent et qui mettent en péril rien moins que les droits de l'homme en France. Donc il y a quand même un vrai sujet là et des vraies questions à se poser et une attention à maintenir face à ce gouvernement qui prend des décisions dont on aurait craint qu'elles soient prises par d'autres gens qui ont failli être là à leur place à la dernière présidentielle, voilà.
Alors quand même, il recule un peu, non ?
Bien sûr, ça bouge. Alors, c'est vrai qu'il y a eu l'histoire là de Michel Zecler à Paris qui a quand même participé assez fortement à une prise de conscience et qui a généré un recul du gouvernement. Parce que voilà, il y a eu l'illustration évidente de ce que risquait d'empêcher cette loi qui veut empêcher l'information, qui fait quand même partie de la base de la démocratie, c'est que tout un chacun doit pouvoir savoir ce qui se passe, ce qu'on fait dans le pays, pour lui ou contre lui parfois.
Quelque chose ou pas assez, toutes ces portes à pousser larges comme des chats d'aiguille, les barrages à passer, faudrait être une anguille, un peu maigre, un peu lisse, pour entrer comme Alice au pays merveilleux. Pays merveilleux. On nous farcit les yeux sur affiches sous vitrine, d'espèces de drôles de tiges qui se collent des vertiges. À force d'être au régime, on est toujours trop quelque chose, trop pas assez. Je suis trop forte, moi je suis trop forte, je connais la chanson, bien sûr ils ont raison, alors je le dis aussi, je suis trop forte, je suis vraiment trop forte d'être arrivée jusqu'ici. J'ai connu toutes les appellations contrôlées. Dès la cour de récréation, ça trempe le caractère. La bonhomie des gros, c'est rien que de la colère stockée sous la peau. Sous la peau. On a même inventé des mots de remplacement pour mieux nous insulter. Correct politiquement, t'es pas grosse, non t'es ronde, corpulente, enveloppée. L'hypocrisie du monde aussi, je la connais, je la connais. Je suis trop forte, moi je suis trop forte, je connais la chanson, bien sûr ils ont raison, alors je le dis aussi, je suis trop forte, je suis vraiment trop forte d'être arrivée jusqu'ici. Je suis pas morte, je connais la chanson. Bien sûr, ils ont raison. Alors je le dis aussi, je suis trop forte. Je suis vraiment trop forte d'être arrivée
Donc, on revient vers vous pour parler un petit peu de l'avenir d'Alteo, cette entreprise de Gardanne qui fabrique de l'aluminium et qui utilise pour cela de la bauxite. Vous vous rappelez le scandale des boues rouges rejetées dans les calanques. Quelque chose qui a d'abord diminué, hein. Ils avaient diminué leur rejet, mais il en restait toujours un certain pourcentage qu'ils n'ont pas le droit de répandre dans la mer parce que c'est dangereux. Et ils le stockent depuis un certain temps, mais voilà, on ne peut pas continuer à produire de la bauxaline, hein, donc c'est le nom du déchet.
Alors non, la bauxaline, c'est le déchet revalorisé. C'est une marque déposée, bauxaline, qui a été déposée par, les filiales qui ont racheté Alteo, hein, qui ont pris la direction. Donc c'est une marque déposée, le résidu, c'est pas la bauxaline. Aujourd'hui, il n'y a plus de déchets toxiques qui sont évacués en mer. Il y a plus que, tout est filtré, il y a eu des gros travaux de mise aux normes, de mise en conformité pour traiter, pour extraire tous les résidus polluants. Aujourd'hui, ces résidus ne sont plus déversés en mer, mais ils existent toujours. Donc ils sont stockés à proximité de l'usine, sur le site de Manche-Gary. Voilà, mais ce qui n'est pas sans soulever des inquiétudes, des riverains notamment, parce que c'est stocké à l'air libre, et que c'est pas parce qu'on est à l'air libre que tout va bien. Bien sûr, ça, il y a le vent, notamment chez nous, qui fait que ça vole. Alors il y a plusieurs projets aujourd'hui pour ces déchets, et notamment la transformation en bauxaline, qui est un sous-produit et qui permet, étonnamment, de traiter les sols pollués. C'est un procédé qui est le moins pire, puisque face aux autres procédés de dépollution de sols qui ont été contaminés, soit par des résidus miniers, soit par l'industrie, puisque ce produit bauxaline permet de bloquer, de figer dans le sol ce qui se passe quand il y a des eaux de pluie qui finissent par faire... ça se retrouve dans les nappes phréatiques, dans l'eau, et il faut bloquer cette pollution.
La bonne nouvelle, c'est qu'il est plutôt prévu d'essayer de financer la recherche en la matière.
C'est ça, voilà, pour l'avenir de l'usine d'Alteo, qui était quand même en suspens, là, puisque suite à la mise en redressement judiciaire, y a plusieurs repreneurs qui proposaient différentes solutions, soit d'abandonner la transformation de la bauxite pour la faire ailleurs, un endroit où on voit moins les déchets, où on est moins regardant. Soit de continuer à exploiter le produit ici, mais avec le problème de la gestion des déchets. Et apparemment, alors la décision reste à confirmer, on attend des décisions officielles. Apparemment, il y aurait un engagement de l'État pour soutenir la production de bauxaline, et donc de maintenir la production d'alumine, et donc les emplois à Gardanne, puisqu'il y a quand même pas loin de 500 emplois qui sont en jeu là-bas, et une grande partie de l'économie locale et de la vie locale. Tout de suite, une pause musicale avec BRDJPP qui sort un nouvel album dont personne n'a entendu parler puisque c'est assez secret, mais si vous voulez vous procurer l'album, contactez l'émission, contactez Radio Galère ou Attaque, on vous fera suivre le lien. Le nouvel album s'appelle Kill to Double et le morceau c'est Dis si tu veux bien.
C'est un Marseillais ?
Ah, c'est un Marseillais, bien sûr. C'est un bon ami marseillais que vous pourrez rencontrer si vous allez du côté de la rue de la Palue au non-lieu pour une des nombreuses soirées tout au long de l'année, musicales, théâtrales et diverses.
Super, on écoute.
Si tu veux bien, si tu veux bien, c'est que tu veux maintenant pour de bon. Dis, si tu veux pas, moi je veux bien dès maintenant, c'est si bon. Dis, si tu veux bien, si on veut bien, c'est qu'on veut bien dès maintenant pour de bon. Dis, l'on sent bien, si l'on sent bien, c'est qu'on aime dès maintenant ce jambon. Dis, c'est pas ma main que tu tiens, mon amour, je le sens. Dis, si on sent bien, c'est le moment pour de bon, je le sens. Si on s'écoule, c'est que c'est cool quand ça roule, on se la mouille. Dis, si c'est la moule, si c'est la moule, c'est le temps qu'il fait dans l'océan. Dis, c'est pas ma main que tu tiens, mon amour, je le sens. Si tu veux bien, c'est que tu veux maintenant pour de bon.
Bonjour André, bonjour Florian. Alors vous êtes respectivement militant à Attaque Marseille pour André, et plus particulièrement à la commission climat-transition. Florian, tu es militant à Greenpeace Marseille. Aujourd'hui, nous allons donc parler du projet d'extension de l'aéroport de Marignane. Tout d'abord, de quoi s'agit-il exactement ?
Oui, bonjour à ceux qui nous écoutent, bonjour à tous, et on va essayer de vous expliquer cette affaire. Alors, il s'agit d'un projet d'extension en quatre tranches et deux phases par l'AMP, Aéroport Marseille-Provence, de l'aéroport donc de Marignane. Il a été mis à l'enquête publique en octobre. La première phase, qui est composée de deux tranches, dont le cœur d'aérogare et l'amélioration des taxiways qui desservent ce cœur d'aérogare. Il s'agit essentiellement d'un permis de construire pour ce cœur d'aérogare.
Le projet cœur d'aéroport vise à relier et à agrandir le terminal 1 et 2 et devra permettre également d'accroître la surface commerciale de l'aéroport.
Alors, l'enquête en cours, au cours du mois d'octobre, a été faite au cours du mois d'octobre, pardon, et le rapport a été mis en ligne à partir de la mi-novembre. C'est un projet qui s'élève à 140 millions d'euros pour le seul cœur d'aérogare, ce qui est quand même très important. Et la seconde phase comporte la construction d'une jetée d'embarquement et de nouveaux parkings d'avions. Alors, ce qui est important, c'est que le projet global vise à doubler la capacité du trafic aérien de l'aéroport de Marignane. Donc, passer de, en gros, 9 millions de passagers actuellement à 18 millions en 2045.
Alors que la crise pourtant a plongé le trafic aérien dans une crise vraiment sans précédent, pourquoi l'AMP souhaite-t-elle s'engager dans ces travaux d'agrandissement ?
Alors, il faut bien comprendre déjà que le projet a été établi en 2019, alors qu'à l'époque le trafic aérien progressait et que entre-temps, la pandémie est intervenue et a fait s'effondrer le trafic aérien. Alors, le projet, par ailleurs, vise essentiellement à l'accueil et un meilleur accueil et de meilleurs services au sein de l'aérogare. Donc, c'est comme ça que c'est présenté pour justifier de cette première tranche qui est quand même l'amorce d'un projet global qui, lui, en revanche, fera progresser le trafic d'une manière considérable.
Comme tu le disais précédemment, la première phase a été soumise à une enquête publique. Alors, on peut d'ailleurs expliquer à nos auditeurs que les enquêtes publiques visent à la fois à informer le public, mais également à permettre à tout citoyen de s'exprimer librement sur le sujet. Alors, que révèle l'enquête publique sur ce projet ?
On a eu 850 contributions, ce qui est pas mal, je crois, dont 20% étaient favorables à cette extension et 80% y étaient opposés. Alors, les 20% favorables sont essentiellement les institutions, les administrations, et en particulier celles qui gèrent l'aéroport, donc l'État qui possède 60% des parts de cet aéroport, la Chambre de commerce qui en possède 25%, la région 5%, le département 5%, la métropole 5% et la ville de Vitrolles 1%. D'autres institutions telles que le MUCEM ou le Festival de la Roque d'Anteron, par exemple, se sont également prononcés pour. Bon, ils considèrent que ça va faciliter l'arrivée dans notre région de clients pour leur institution. Alors, dans ce projet, il y aurait dû avoir, avant même que soit déposé ce permis de construire, un schéma de composition générale, sorte de plan directeur pour 2048, qui est la date de la fin de la concession. Alors, ce schéma de composition générale, en fait, n'est toujours pas établi, et une enquête publique devra se faire à nouveau pour son adoption. C'est lui qui définira les objectifs de trafic. Pour l'instant, la seule première tranche devrait se faire et le terminal 1 devrait rester à sa capacité de 8 millions de passagers. C'est ce que nous dit le projet.
L'autorité environnementale, qui est l'autorité compétente en matière d'environnement, a pour objectif de rendre des avis sur les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Alors, cette autorité s'est-elle prononcée sur le sujet ?
Alors effectivement, l'autorité environnementale s'est prononcée. Elle a fait un rappel que la neutralité carbone devait être atteinte en 2050, conformément aux accords de Paris, soit moins 50% d'émissions de gaz à effet de serre dans l'ensemble, d'ici 2030, sachant que sur un aéroport comme celui-là, la pollution au gaz à effet de serre provient à 77% du trafic aérien, dont ils n'ont pas la maîtrise, et à 22% de l'ensemble routier, d'accès en voiture et l'aéroport lui-même. Alors, l'autorité environnementale, en fait, c'est la commission, le Conseil général pour l'environnement et le développement durable, recommande des compensations en matière de bruit, des compensations en matière d'émissions de GES, bien sûr, de gaz à effet de serre, relève des problèmes de gestion des eaux de surface parce que c'est un secteur inondable, d'autant plus que la montée des océans est également inquiétante pour cet aéroport qui est pratiquement au niveau de la mer, et aussi la préservation de certaines espèces qui se sont développées sur ces espaces libres.
Oui, ce qui est intéressant dans son étude d'impact, l'autorité environnementale pointe l'ensemble des désagréments qui vont être générés par le projet. Le seul avantage de ce projet d'agrandissement étant d'ordre socio-économique.
Alors, les conclusions définitives du commissaire enquêteur sont parues récemment. J'imagine que la commission climat-transition les a scrutées avec beaucoup d'attention. J'imagine qu'également que Greenpeace les a auscultées. Pouvez-vous nous les présenter ?
Alors, bon, en définitive, on s'y attendait. C'est un avis favorable sur le permis de construire du cœur d'aérogare que présente le commissaire enquêteur. Probablement sans les améliorations de taxiway qui sont autour, nous dit-il. Mais ça, c'est pas un engagement. Hein. Au motif que cette partie n'aurait pas d'incidence sur le trafic, qui resterait à 8 millions de passagers maximum dans cette configuration. Alors, il y a certaines atténuations, certaines demandes qui sont faites à l'aéroport, à AMP, une demande à modifier les documents d'urbanisme pour stabiliser, voire réduire les populations impactées par le bruit. À mon avis, c'est un vœu pieux. Concernant l'autorité environnementale, le commissaire enquêteur minimise les directives qui, selon lui, ne s'appliquent pas à ce permis, mais à l'ensemble du projet et à l'extension du trafic qu'induit l'ensemble du projet. Par ailleurs, il souligne que l'AMP serait prêt à s'engager pour ne plus soutenir les liaisons aériennes qui ont une alternative ferroviaire à moins de 2h30 et s'engager également à la neutralité carbone sur son périmètre d'ici à 2050.
On peut s'interroger sur cet avis sans réserve du commissaire enquêteur dans la mesure où les principaux impacts économiques mis en avant sont issus d'estimations d'hypothèses qui ont été réalisées en amont de la crise sanitaire et de l'effondrement du trafic aérien, ce qui aujourd'hui pose la question de l'opportunité du projet compte tenu du nouveau contexte qui apparaît.
Alors on sait qu'ATAC est très présent dans les luttes contre le changement climatique et contre les fameux grands projets inutiles. Alors on sait également, bien évidemment, Greenpeace est également impliqué. Mais quel a été le rôle de ces associations et peut-être plus largement du collectif dans l'opposition à ce projet?
Bon, avec d'autres, on s'est mobilisé, bien sûr. Et dès qu'on a eu vent de cette extension, on a étudié le dossier et pendant l'enquête, on a également étudié les contributions parce qu'on avait accès aux contributions également. Alors, on a encouragé, dès qu'on l'a su, dans nos réseaux, on a encouragé à la participation des citoyens à répondre à l'enquête. Et pour ce faire, on a établi un argumentaire avec tous les arguments qui s'opposaient à ce projet.
Alors, effectivement, le collectif réunit aujourd'hui un certain nombre d'associations, dont France Nature Environnement, dont Extinction Rebellion, dont les Jeunes pour le Climat, dont Alternatiba, NV COP21 et bien d'autres. La première idée, c'était de mettre en lumière le projet d'extension et l'enquête publique, comme ça a été rappelé par André. Donc, c'est passé essentiellement par des relations avec les médias et via les réseaux sociaux, par une information et une communication auprès de nos réseaux et de nos cercles. On a également mené une activité de désobéissance civile en rentrant dans l'aéroport et en affichant clairement notre opposition au projet. Voilà, sachant qu'on avait au préalable organisé un certain nombre de conférences et de tables rondes qui avaient déjà permis de familiariser les Marseillais et les Marseillaises sur la thématique.
Suite aux derniers éléments parus, alors je pense notamment aux conclusions du commissaire enquêteur, comment se positionne ATAC aujourd'hui sur le sujet, mais bien évidemment Greenpeace et le collectif en général?
Oui, alors, bon, rappelons un certain nombre de choses. Rappelons que l'avion est 15 fois plus polluant que le train, 40 fois plus que le TGV. Rappelons que les experts du GIEC sont très inquiets sur les augmentations de température d'ici 2050 et qui pourraient atteindre 3 degrés avec les courbes actuelles et même 7 degrés à la fin du siècle. On doit donc freiner des quatre fers, quoi qu'il en coûte. on ne réduit actuellement que de 0,5% par an, alors que ça devait être moins 3% par an, et que vu les retards pris, il faut probablement viser maintenant à moins 7 ou moins 8% par an. Donc il y a urgence d'agir et de ne pas développer des projets polluants. Rappelons aussi que la Convention citoyenne a demandé de supprimer les liaisons aériennes s'il y a une alternative de 4 heures en train. Bon, on sait que Macron a réduit cette demande, cette problématique à 2 heures. La Convention citoyenne a également demandé qu'on interdise l'extension des aéroports existants. Et bon, ce projet, c'est une extension. Donc, nous restons fermement opposés à cette dépense de 140 millions dans un contexte d'effondrement de l'activité aérienne, dépense limitée, on le sait, au profit d'une petite minorité.
En effet, aujourd'hui, seuls 5% de la population mondiale bénéficie de trajets en avion et c'est ce trafic qui génère près de 7% des émissions de gaz à effet de serre globales.
Au niveau national et international, on a pu observer récemment des actualités qui ont fait bouger les lignes en matière de justice climatique. Pouvez-vous m'en dire plus sur ce sujet ?
Oui. Alors, quelques bonnes nouvelles. Tout d'abord, le délit d'écocide a été donc introduit dans le droit, ce qui nous permettra à terme de pouvoir s'opposer à des projets qui visent à détériorer, détruire l'environnement et la nature. C'est une avancée assez importante, une avancée juridique. Autre point également, le Conseil d'État a soumis l'État à démontrer son implication dans les objectifs par rapport aux objectifs des accords de Paris et donc invite l'État dans un délai de 3 mois à produire des éléments comme quoi effectivement ils sont engagés pour la limitation des émissions de gaz à effet de serre.
Voilà, alors on peut relever encore deux autres points d'actualité là qui sont intéressants. Il y a eu la relaxe de deux nouveaux décrocheurs de portraits de Macron, justifiant finalement leur action et justifiant quelque part la désobéissance civile sur des questions aussi importantes et aussi cruciales pour l'avenir de l'humanité, on va dire. Par ailleurs, on vient d'apprendre là, que 6 jeunes Portugais ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme, poursuivant 33 États de l'UE et également le Royaume-Uni, la Norvège, la Turquie et la Russie, qui ont échoué à faire leur part afin d'éviter une catastrophe climatique. Parce qu'il faut savoir qu'au Portugal, ça chauffe un peu plus qu'ailleurs encore. Et les pays en question ont 3 mois pour donner leur réponse.
Pour les auditeurs qui voudraient se mobiliser, comment pourraient-ils s'impliquer dans cette lutte ? Florian, peut-être ?
Alors, tout d'abord, on les invite à nous rejoindre, à rejoindre les collectifs qui sont constitutifs de la mobilisation. Et puis, par ailleurs, on vous invite également à répondre à la pétition que l'on a mise en ligne, qui vise à continuer de communiquer sur le projet et puis qui doit permettre de créer une communauté qui soit opposée et qui animera la lutte contre ce projet d'extension de l'aéroport.
André et Florian, je vous remercie. Merci pour vos réponses avisées qui nous permettent d'y voir désormais plus clair. Je vous propose de clôturer notre entretien en écoutant une chanson. Une chanson d'un groupe américain qui s'appelle The Box Tops, une chanson qui est parue en 1967, intitulée The Letter. Alors, dans cette chanson, le chanteur du groupe, Wayne Carson, de sa voix rock et suave, dit les paroles suivantes. Alors, excusez mon anglais. Il dit « Give me a ticket for an aeroplane, ain't got time to take a fast train », que l'on pourrait traduire en français par « Donnez-moi un ticket pour l'aéroport, car je n'ai pas le temps de prendre un train à grande vitesse ». J'espère qu'il a désormais changé d'avis suite à l'écoute de notre entretien. Bonne écoute et à très bientôt.
Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me. Mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter.
Dans cette troisième partie, on va vous parler de la commune de Grande-Synthe, une petite commune relativement d'un peu moins de 25 000 habitants dans le nord, pas loin de Dunkerque, et qui a élu un maire écologiste en 2014. Donc ils avaient une belle avance là, sur la prise de conscience écologiste. Ce qu'on remarque quand on arrive sur le site, d'ailleurs, c'est que l'écologie et le changement climatique sont une préoccupation vraiment importante pour cette commune. Alors, on n'est pas à Marseille, c'est un petit peu loin de Marseille, effectivement. Alors, qu'est-ce que ça vient faire ici, dans cette émission sur Attaque Marseille? Eh ben, c'est que c'est concernant, hein. On est sur un sujet qui touche tout le monde aujourd'hui. Et puis, plus on en parle, et plus on a des exemples qui font avancer, et plus ça bouge, et plus on a un effet positif. Donc, la situation. Le 19 novembre 2018... Cette commune a déposé une demande très officielle au président de la République, Premier ministre et au ministre de la Transition écologique, portant d'une part sur les mesures à prendre afin d'infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire national, donc la France, de manière à respecter les obligations consenties par la France, voire aller au-delà de ses obligations. Deuxièmement, il y avait une demande pour prendre les dispositions d'initiatives législatives ou réglementaires pour rendre obligatoire la priorité climatique, hein, et interdire toute mesure susceptible d'augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, troisièmement, mettre en œuvre des mesures immédiates d'adaptation au changement climatique en France. L'État et son gouvernement ont opposé une fin de non-recevoir tacite, puisque aucune des personnes saisies n'a répondu. Voilà, le silence de l'administration est éloquent. Et ce qui fait que 2 mois après une telle demande, c'est considéré comme un refus. C'est ce qu'on appelle un refus implicite.
Le refus implicite, c'est une décision administrative qui, si elle fait grief à une personne, là une personne morale, peut être attaquée par cette personne devant la juridiction administrative.
Et dans cette affaire, la juridiction administrative compétente, c'est le Conseil d'État. Et donc le 23 janvier 2019, la commune de Grande-Synthe a déposé sa requête. Elle a été rejointe plus tard par l'intervention volontaire dans la procédure des villes de Paris, Grenoble et quatre associations que sont Oxfam France, Greenpeace, Notre Affaire à Tous et la Fondation pour la Nature et l'Homme.
Avant de répondre définitivement, le Conseil d'État a rendu une première décision le 19 novembre 2020 dans laquelle il demande au gouvernement de justifier dans les 3 mois, donc à peu près d'ici le 20 février 2021, de la compatibilité de son refus de prendre aujourd'hui de nouvelles mesures réglementaires avec la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à laquelle il s'est engagé jusqu'en 2030. Rappelons que l'engagement de départ donc était de diminuer de 40% l'émission de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et ce, pour aboutir à la neutralité carbone seulement en 2050. Donc, nous dénoncions à l'époque ces engagements comme insuffisants, compte tenu de l'urgence climatique. Mais bon, ces engagements existent, alors au moins qu'ils soient respectés. Parce que pour le moment, ça n'en prend pas le chemin. Qu'on en juge, le plan de l'État français prévoit 4 périodes avec des objectifs intermédiaires. Alors sur la période 2015-2018, l'engagement initial était de rester en dessous de 442 mégatonnes de CO2 équivalent par an d'émissions nettes. Alors, les émissions nettes, c'est la différence entre ce qui est émis sur le territoire et ce qui est absorbé par les forêts, les arbres, l'océan, etc. Ce qui supposait une réduction d'émissions de 2,2% par an. Or, cet engagement n'a pas du tout été tenu. Pire, de 2015 à 2017, aucune réduction, au contraire, une augmentation. Et en 2018, enfin, une réduction réelle qui a permis de ramener tout ça à une baisse moyenne sur la période de 1% par an. Mais donc, le compte n'y était pas. Et en moyenne, le quota annuel a été dépassé de 62 mégatonnes par an. Ça, c'est la première période, donc totalement ratée. Sur la période 2019-2023, et bien que la France était déjà très en retard, le gouvernement a décidé d'entériner le retard au lieu de le rattraper. Et il a pris le 21 avril 2020 un nouveau décret qui augmente la quantité annuelle maximale d'émissions de gaz à effet de serre prévue. Il était prévu 399 mégatonnes et il l'a fait passer à 422 mégatonnes. Un objectif bien peu ambitieux, qui ne sera peut-être même pas atteint, on n'y est pas encore, et qui, en tout cas, reporte la majorité de l'effort sur les années suivantes. Donc, sur 2024-2028, il faudrait ne pas dépasser 359 mégatonnes. Au départ, c'était à peu près ça qui était prévu. Et sur 2029-2033, arriver à un maximum de 300 mégatonnes émises par an. Ce canevas et cette trajectoire ont contribué à faire durer l'émission de gaz à effet de serre pendant déjà plus de 5 ans, au-delà de ce qui était prévu. On est impatient de lire les explications du gouvernement sur sa trajectoire et sur sa faisabilité en tout cas. Cette décision du Conseil d'État est donc considéré à juste titre comme une victoire, même si ce n'est pas une décision définitive et c'est seulement une demande d'éclaircissement. C'est seulement après réception des éclaircissements que le Conseil d'État rendra sa décision. Mais elle est importante parce que la légitimité à agir des communes contre l'État est reconnue, comme celle des associations. Le fait d'éventuellement pouvoir imposer à l'État de prendre des mesures réglementaires conformes aux lois votées et à ses engagements internationaux est reconnu. Et en matière environnementale, alors que les engagements sont rarement contraignants, c'est une décision importante. Bon, c'est pas tout à fait la première fois qu'un État est pris au mot. Il y a déjà eu 2 actions portées devant des cours suprêmes nationales qui ont abouti. La première avait été intentée par l'association Urgenda et 900 citoyens. Et ça a permis de contraindre les Pays-Bas à réduire leurs émissions d'au moins 25% d'ici la fin de l'année. Et puis la seconde, elle était dirigée contre le gouvernement irlandais, porté par les Amis de la Terre et soutenu par 20 000 citoyens. Et ils ont obtenu l'annulation du plan de lutte contre le réchauffement climatique du gouvernement irlandais, qui était jugé insuffisamment précis. Alors la France a par ailleurs un autre procès du même genre, ça s'appelle l'affaire du siècle, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais on en entendra parler, qui est porté par les 4 mêmes associations, alors Oxfam, Greenpeace, Notre Affaire à tous et la Fondation pour la Nature et l'Homme. L'affaire avait commencé également par une demande préalable, à laquelle cette fois l'État avait longuement répondu en mettant en avant ses mesures climatiques. Le tribunal devra donc analyser cette réponse et ses mesures pour voir si elles sont suffisantes. Enfin, rappelons qu'aujourd'hui, 10 décembre et demain, se tient le Conseil européen et à son ordre du jour, il y a l'ambition d'accélérer la diminution d'émissions de gaz à effet de serre. Il est prévu d'exiger une baisse globale de 55% des émissions européenne d'ici 2030, au lieu des 40% qui étaient initialement fixés. La COP26 a été reportée, elle aura lieu en novembre 2021 au Royaume-Uni et elle devrait enregistrer tous les engagements pris par les États d'ici là.
Et voilà l'heure de la dernière pause musicale et on va écouter Henri Salvador avec Les voleurs d'eau.
Et si nos sources sont taries, tous nos troupeaux vont périr l'un après l'autre. Là-haut, là-haut, il faut sortir nos fusils. Là-haut, là-haut, il faut lutter pour nos vies. Mais d'abord il nous faut parler à ces gringos. Nos terres sont les plus fertiles, c'est l'eau, et nous vivions si tranquilles de nos travaux. Quand nous montions dans nos barques, lorsque nous pêchions dans le lac, heureux, heureux, ils veulent construire un barrage. Là-haut, là-haut, c'est la vallée qui saccage. Là-haut, ils inonderont nos villages et ils nous mettront dans des cages. Là-haut, comme des corbeaux, nous devons les empêcher. Là-haut, là-haut, de détruire nos foyers. Si beau, si beau, tous les hommes vont s'armer. Les femmes vont les aider. Il faut de l'eau, il faut de l'eau, il faut de l'eau, de l'eau.
Voilà, cette émission s'achève. C'était la dernière émission de l'année, celle de décembre. Alors, on va vous dire bon boudin, comme d'habitude, et à l'année prochaine. La prochaine émission sur Radio Galère, ça sera le jeudi 14 janvier. Ça devrait être avec la bande de jeunes d'Attaque Campus. Et d'ici là, ne lâchez rien.
C'était La Gueule Ouverte, le rendez-vous mensuel d'Attaque Marseille. On se retrouve le mois prochain, le deuxième jeudi du mois, de 15h à 15h30 sur Radio Galère. Allez, zou, bouleg, casse-toi, bye, bye.